Nouvelle approche biomécanique et rééducative des luxations du coude. Kiné actualité du jeudi 12 mars 2009. La difficulté essentielle de la prise en charge masso-kinésithérapique des luxations du coude réside dans l'existence concomitante d'une raideur en flexion et extension du coude et d'une éventuelle laxité dans le plan frontal et rotatoire. Plus le gain articulaire augmente et plus le coude se déstabilise. Article signé haut de Keno, QESNOT, et Jean-Claude Chanusseau, CHANU2SOT. Les luxations du coude sont l'apanage de l'adulte jeune avec une nette prédominance masculine. Leur fréquence, selon les auteurs, est estimée entre 10 et 25% des traumatismes du coude et elles viennent au deuxième rang des luxations juste après celle de l'épaule. Le mécanisme lésionnel est quasiment toujours indirect et consiste dans la réception d'une chute sur la main, le coude plutôt en extension et surtout l'avant-bras en supination. Des contraintes majeures en compression dans l'axe de l'avant-bras et en valgus sont générées par l'accident. On distingue les luxations simples des luxations complexes, qui présentent des fractures associées telles que la fracture de la tête radiale ou du processus coronoïde, des lésions chondrales ou des arrachements tels les épicondyliens médiaux ou latéraux. Physiopathologie de l'instabilité du coude. La compréhension des mécanismes de luxation du coude n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, car la théorie classique, lésions en valgus allant de dedans en dehors dans le plan frontal, est actuellement remise en question par O'Driscoll, O'DRISCO2L, lésions allant de dehors en dedans dans les trois plans de l'espace. Dans la théorie classique, l'hyperextension du coude en valgus provoque en effet un effet de levier du bec olécranien sur la fosse olécranienne entraînant des lésions de dedans en dehors, c'est-à-dire du ligament collatéral médial, puis de la capsule antérieure qui s'accompagne d'un recul de la coronoïde et d'une instabilité en valgus. Plus récemment, O'Driscoll a mis en évidence que le mécanisme lésionnel qui est associé à extension valgus, mais aussi compression dans l'axe de l'avant-bras et supination forcée, peut être responsable d'une luxation postérolatérale avec des lésions qui vont se propager non pas de dedans en dehors, mais en sens inverse. Cette séquence lésionnelle s'effectue en trois étapes. Étape 1. Il se produit une subluxation rotatoire des deux os de l'avant-bras par rapport à la palette humérale qui peut se réduire spontanément. Il existe au minimum une déchirure franche du ligament collatéral latéral, LCL, moyen épicondylo-sigmoïdien postérieur. Étape 2. Les lésions s'étendent de la capsule antérieure et postérieure, le coude est subluxé, sur l'imagerie de profil, le processus coronoïde se trouve en regard de la palette humérale. Étape 3. La lésion atteint le ligament collatéral médial, LCM. Le processus coronoïde se situe derrière la trochlée humérale. On parle alors de luxation. Sur le plan anatomo-clinique, trois stades correspondant à des atteintes croissantes sont différenciés. Dans chacun de ces stades, qui correspond cliniquement à une luxation, le faisceau moyen du ligament collatéral latéral a été lésé au préalable. Luxation stade 1, cliniquement, il existe une luxation du coude autour du faisceau antérieur et moyen resté intact du LCM. Après réduction, le coude est stable. Seul le faisceau postérieur du LCM a été lésé. Luxation stade 2, il existe une rupture franche du faisceau postérieur et moyen du LCM, plus ou moins faisceau antérieur. Après réduction, le coude est instable en rotation postérolatérale, varus et valgus, mais il est stable au-delà d'une flexion de 30 degrés. Luxation stade 3. Il existe en plus de la rupture complète des trois faisceaux du ligament collatéral médial, des lésions musculo-tendineuses. Le coude est instable après réduction. Les conséquences de cette nouvelle approche biomécanique d'O'Driscoll sont de trois ordres. Les laxités ou instabilités postérolatérales se testent avant-bras ou supination forcée et valgus. Les laxités en valgus signant une atteinte du LCM se testent avant-bras en pronation et valgus. Le placement de l'avant-bras en pronation protège le faisceau moyen du LCL. Traitement médical et chirurgical. Les indications des traitements sont complexes, même si l'arbre décisionnel est à ce jour bien codifié. MANSA. Instabilité traumatique du coude de l'adulte, conférence d'enseignement de la SOFCOT, expansion scientifique 2002.79.141-62. En cas de luxation simple, une réduction douce est réalisée sous anesthésie. La stabilité du coude est alors testée et quatre cas de figure se présentent alors. Cas numéro 1. Coude stable dans tous les secteurs de flexion-extension, le traitement est alors fonctionnel. Il comprend une attelle postérieure antalgique, 8 à 10 jours et une rééducation précoce. Cas numéro 2. Coude instable en flexion-extension, mais stable, l'avant-bras en pronation au-delà de 30 degrés de flexion. Le traitement est fonctionnel et comprend une attelle articulée dans laquelle l'avant-bras est placé en pronation pendant 45 jours. Les trois premières semaines, J1 et J21, une butée limite le secteur 0,30 degrés par définition instable. Cas numéro 3. Coude instable en flexion-extension, mais stable, l'avant-bras en pronation au-delà de 60 degrés de flexion. Le traitement est fonctionnel et comprend une attelle articulée dans laquelle l'avant-bras est placé en pronation pendant 45 jours. De J1 à J21, une butée interdit le secteur 0,60 degrés. Puis de J21 à J45, la butée se réduit au secteur 0,30 degrés. Cas numéro 4. Coude instable dans tous les secteurs de flexion-extension. Le traitement est alors chirurgical associé à une attelle articulée. En cas de luxation complexe, le traitement est toujours chirurgical avec ostéosynthèse et éventuellement réparation ligamentaire. Les consignes post-opératoires de liberté articulaire dépendent de la stabilité du coude évaluée au bloc par l'orthopédiste. Quel que soit le type de luxation, la consolidation est obtenue en 45 jours. Prise en charge masso-kinésithérapique. Sans revenir sur les techniques de rééducation classiques, antalgie, lutte contre les troubles trophiques, tonification, etc., trois axes rééducatifs forts méritent d'être soulignés. Un axe mécanique de respect des secteurs articulaires. Un axe de prévention du non-usage par des techniques cognitives. Un axe neuromusculaire basé sur la fonction. Axe mécanique de respect des secteurs articulaires. Les protocoles de récupération articulaire sont les suivants. J1 à J21, l'attelle articulée est retirée pendant les séances de rééducation. Les secteurs autorisés sont soit 30 degrés 120 degrés, soit 60 degrés 120 degrés. Les mouvements de pronosupination sont recherchés sans restriction à 90 degrés de flexion. Le gain en extension se fait exclusivement en pronation. J21 à J45, l'attelle articulée est retirée pendant les séances de rééducation. Les secteurs autorisés sont soit 0 degré 120 degrés, soit moins 30 120 degrés. Les mouvements de pronosupination sont recherchés sans restriction à 90 degrés de flexion. En revanche, le gain en extension se fait exclusivement en pronation. Après J45, l'attelle articulée est sevrée et le gain articulaire combine progressivement l'extension et la supination. La progression musculaire est quant à elle réalisée par un travail en poutre composite des fléchisseurs extenseurs qui impactent les surfaces articulaires puis des épicondyliens médiaux et latéraux, les muscles pronateurs étant sollicités avant les supinateurs. Petit encart, les secteurs d'instabilité du coude sont l'extension associée à la supination qui favorise l'instabilité postérolatérale. L'extension en supination est le secteur articulaire à récupérer en dernier, c'est-à-dire après J45. Axe de prévention du non-usage par des techniques cognitives. La kinésie post-traumatique ou post-opératoire spontanée ou induite par le traitement, la douleur ou l'appréhension ont des conséquences désastreuses sur la fonction du membre supérieur, tant au niveau articulaire, avec l'installation progressive d'une raideur, qu'au niveau cérébral, avec des anomalies fonctionnelles dans les zones sensitives motrices et de l'image du mouvement. Ces phénomènes, décrits par Meige, M-I-G-E, dès 1905, sous le terme d'amnésie motrice, puis repris récemment par Taube en 1993 sous l'intitulé Learned Non-Use Phenomenon, sont les effets pervers de la plasticité cérébrale en traumatologie et orthopédie. Selon J.P. Didier, l'apprentissage est une technique de rééducation, mais apprendre quoi, comment, en évitant quoi, KS numéro 482, novembre 2007, 39-44. L'inactivité engage un ensemble de modifications conduisant à une désadaptation fonctionnelle qui s'auto-entretient pour aboutir à un format d'inactivité dans lequel structures nerveuses et effecteurs sont conformés au mode inactif. Les mécanismes cognitifs et mécaniques étant étroitement liés, un des objectifs prioritaires en kinésithérapie est de lever cette sidération kinétique. Des exercices précoces de visualisation d'un mouvement imaginé du membre supérieur, technique d'imagerie mentale, soit analytique, soit fonctionnelle, les yeux fermés, associés éventuellement à des séances de relaxation ou de sophrologie, doivent être systématiquement proposés. Ils ont l'avantage à ce stade d'être complètement indolores. Des mouvements en miroir sont également réalisés de manière active par le patient en imitant les mouvements du membre supérieur du masseur kinésithérapeute qui est placé face au patient. Enfin, des exercices de mouvement imagés sont proposés grâce à un miroir de rééducation. Si ces techniques ont à ce jour fait leurs preuves sur le gain articulaire, elles semblent aussi limiter les complications telles que le SDRC de type 1. Petit encart, la qualité des résultats masso-kinésithérapiques est toujours liée à la mobilisation précoce, à la mise en place d'une attelle de posture DJ21, au gain articulaire raisonné de cette articulation qui reste réactive et à la restitution de l'utilisation du coude dans les activités de la vie quotidienne et enfin à la prévention des complications dont notamment le syndrome douloureux régional complexe de type 1, algoneurodystrophie. Axe neuromusculaire basé sur la fonction. Selon Ring, R-I-N-G, et Jupiter, comme le dieu, la stabilité du coude repose sur l'intégrité de quatre colonnes, à savoir la colonne médiale, postérieure, latérale et antérieure. Avant de débuter la kinésithérapie, il nous paraît nécessaire de cerner le nombre de colonnes atteintes et l'importance de chacune des lésions. En effet, l'atteinte partielle d'une colonne va pouvoir être compensée par les éléments restants, notamment musculaires, et par les trois autres colonnes. La perte d'intégrité de plusieurs colonnes va non seulement aboutir à des risques d'instabilité majeure en valgus supination, mais aussi à des risques de raideur articulaire non négligeables compte tenu de la souffrance des tissus mous et du nombre de gestes chirurgicaux réalisés. La notion de perception du mouvement va s'établir grâce au travail des prises de finesse dans un premier temps, puis par des exercices proprioceptifs sollicitant le coude de force, de lancer et enfin d'appui. Ces exercices répondent à un double objectif. Mobiliser activement le coude au cours de gestes fonctionnels faisant appel à des patterns moteurs, tout intégrés permettant d'utiliser les phénomènes d'anticipation, de synergie, de chronométrie musculaire et de proprioceptivité dans un contexte sensorimoteur basé sur des activités fonctionnelles, ciblées et répétitives. Améliorer la stabilité du coude en orientant ces exercices vers les groupes musculaires pouvant suppléer l'atteinte du système ligamentaire voire osseux d'une colonne donnée. Conclusion. Si les luxations du coude paraissent bien connues en rééducation, les principes de la prise en charge masso-kinésithérapique étaient souvent confus ou mal appréhendés, soit à cause de la diversité des classifications, soit à cause du flou anatomo-clinique. Les théories actuelles, Odriscoll, Ring et Jupiter, permettent de mieux comprendre la physiopathologie des luxations et des instabilités du coude et de concevoir une rééducation beaucoup plus spécifique encadrée par un protocole cartésien. Nos priorités reposent à la fois sur la récupération de la stabilité du coude, articulation qui reste néanmoins délicate dans sa prise en charge, et sur le lever précoce de l'akinésie ou des phénomènes de non-utilisation du membre supérieur.